Le chevaucheur du crépuscule.
Cependant que le sang des frères Daunet séchait sur la terre jaune de la place du Martrois, où les chiens venaient renifler en grognant, Maubuisson sortait lentement du drame. Les trois fils du roi restèrent invisibles pendant tout le jour. Personne ne leur fit visite, hors les gentilshommes attachés à leur service. Mao avait tenté vainement d'être reçu par Philippe le Bel. Nogaret vint lui déclarer que le roi travaillait et souhaitait n'être pas troublé. « C'est lui !» « C'est ce dogue, pensa Mao, qui a tout machiné et qui maintenant m'empêche d'arriver à son maître. » Tout persuadait à la comtesse de voir dans le garde des Sceaux le principal artisan de la perte de ses filles et de sa disgrâce personnelle. « À la pitié de Dieu, messire de Nogaret, à la pitié de Dieu !» lui dit-elle d'un ton de menace, avant de remonter en litière pour regagner Paris. D'autres passions, d'autres intérêts s'agitaient à Maubuisson. Les familiers des princesses exilées cherchaient à renouer les fils invisibles de la puissance et de l'intrigue, fût-ce en reniant les amitiés dont la veille ils se paraient. Les navettes de la peur, de la vanité et de l'ambition s'étaient mises en marche pour retisser sur un nouveau dessin la toile brutalement déchirée. Robert d'Artois avait l'habileté de ne pas afficher son triomphe. Il attendait d'en récolter les fruits. Mais déjà les égards qu'on avait d'ordinaire pour le clan de Bourgogne se déplaçaient vers lui. Le soir, il fut convié au souper du roi, et l'on vit bien à cela qu'il remontait en faveur. Petit souper, presque souper de deuil, et qui réunissait seulement les frères de Philippe le Bel, sa fille, Marigny, Nogaret et Bouville. Le silence pesait dans la salle étroite et longue où le repas était servi. Charles de Valois lui-même se taisait, et le lévrier lombard, comme s'il ressentait la gêne des convives, avait quitté les pieds de son maître pour aller s'allonger devant la cheminée. Robert d'Artois cherchait avec insistance à rencontrer les yeux d'Isabelle, mais celle-ci mettait la même persévérance à dérober son regard. Elle ne voulait donner aucun signe à son géant cousin, ayant avec lui pour chasser les passions coupables, d'être accessible aux mêmes tentations. Elle n'acceptait de complicité que dans la justice. « L'amour n'est pas mon lot, se disait-elle, je m'y dois résigner. » Mais il lui fallait s'avouer qu'elle se résignait mal. Au moment où les écuyers entre deux services changeaient les tranches de pain, Lady Mortimer entra, portant le petit prince Édouard, pour qu'il donnât à sa mère le baiser de bonsoir. « Madame de Joinville, dit le roi en appelant Lady Mortimer par son nom de naissance, approchez-moi, mon seul petit-fils. » Les assistants notèrent la façon dont il avait prononcé le mot « seul ». Philippe le Bel prit l'enfant et le tint un grand moment devant ses yeux, étudiant ce petit visage innocent, rond et rose, où les fossettes marquaient des ombres. De qui montrerait-il les traits et la nature? De son père, changeant, influençable et débauché, ou de sa mère Isabelle? « Pour l'honneur de mon sang, pensait le roi, j'aimerais que tu sois à la ressemblance de ta mère. Mais pour le bonheur de la France, fasse le ciel que tu sois seulement le fils de ton faible père. » Car les questions successorales se posaient forcément à lui. Qu'arriverait-il si un prince d'Angleterre se trouvait un jour en position de réclamer le trône de France? « Édouard, souriez à Sire votre grand-père, » dit Isabelle. Le petit prince ne paraissait avoir aucune peur du regard royal. Soudain, avançant son poing minuscule, il le plongea dans les cheveux dorés du souverain et tira sur une mèche qui bouclait. Ce fut Philippe le Bel qui sourit. Alors il y eut chez tous les convives un soupir de soulagement, chacun s'empressa de rire, et l'on osa enfin parler. Le repas achevé, le roi congédia ses hôtes, à l'exception de Marigny et de Nogaret. Il vint s'asseoir près de la cheminée, et fut un grand moment sans rien dire. Ses conseillers respectèrent son silence.